Deutsche Welle. Allemagne Magazine.
Pour la première fois, la Pologne a ouvert le feu cette nuit sur notre propre territoire avec des soldats, des troupes régulières. Depuis 5h45, nous ripostons à ces tirs et désormais nous rendrons bombe pour bombe.
Adolf Hitler, 1er septembre 1939. Ainsi commence la Seconde Guerre mondiale en Europe. Lorsque Adolf Hitler lance son attaque sur la Pologne le 1er septembre 1939, il a les yeux rivés sur la conquête de l'Est, mais d'autres dans son entourage rêvent de reconstituer l'empire colonial allemand en Afrique. C'est notre sujet cette semaine. En seconde partie d'émission, on retrouvera Audrey Parmentier à Berlin et il sera question cette fois de réconciliation. C'est Constance Jönkötze au micro. Guten Tag, bonjour à tous.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili
Lili Marlene, voilà une chanson dont l'histoire vaudrait à elle seule une émission. Ce qui était au début un simple poème d'amour écrit par un jeune soldat en 1915 va devenir au début des années 40 un hit auprès des militaires allemands, puis un succès mondial. En 1942, on vend 160 000 exemplaires du disque et en l'espace de 6 mois, la chanson est adaptée dans 48 langues. Elle traverse notamment la Méditerranée. Elle est fredonnée par les Allemands et les Britanniques qui livrent bataille pour le contrôle de l'Afrique du Nord. Mais n'allons pas trop vite et commençons par parler de l'empire colonial allemand à l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. C'est très simple, il est inexistant. À l'issue de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd en effet toutes ses colonies au profit de la France et de la Grande-Bretagne. Pour beaucoup de contemporains d'Adolf Hitler, c'est un drame. Pour le dictateur lui-même, c'est grave, mais secondaire. Plus que la reconstitution d'un empire outre-mer, son premier objectif, et cela le restera tout au long du conflit, c'est la conquête de territoires à l'Est et en particulier en Russie. C'est ce qu'explique ici Andreas Eckert, historien à l'Institut pour les études asiatiques et africaines de l'Université Humboldt à Berlin.
L'Afrique n'était pas vraiment intégrée dans les projets d'hégémonie mondiale d'Hitler. Il s'intéressait davantage à d'autres régions du monde. Pour autant, il ne s'est pas opposé à l'intérêt que certaines personnes, dans son entourage, portaient à l'Afrique.
Et parmi ces personnes, un certain nombre d'hommes politiques influents, ils estiment que la perte des colonies allemandes à l'issue de la Première Guerre fait partie des affronts majeurs induits par le traité de Versailles, négocié, vous vous en souvenez peut-être, sans les vaincus, donc sans l'Allemagne. En 1934, l'Office de la politique coloniale du Parti national socialiste, le KPA, voit le jour. Sorte de laboratoire en vue d'un futur ministère des colonies, il est dirigé par un certain Franz von Epp, un général qui a pris part au début du siècle au massacre des Hereros en Afrique du Sud-Ouest, l'actuelle Namibie. En 1936, Hitler réclame officiellement et en personne la restitution des possessions allemandes d'outre-mer. Dans un livre intitulé « Hitler voulait l'Afrique », l'historien camerounais Alexandre Koumandoubé se penche sur les projets que nourrissaient les nazis sur le continent africain. Il estime notamment que le dictateur a cédé à des pressions issues des milieux économiques et d'affaires qui le financent par ailleurs. Le chercheur cite notamment la Reichsbank et la Deutsche Bank, les deux grandes banques de l'époque, ou encore le géant de l'industrie chimique IG Farben, qui voyait dans la conquête ou la reconquête de territoires sur le continent africain un moyen d'engranger des bénéfices, d'acquérir de nouveaux débouchés, tout en s'assurant des matières premières. Outre les milieux économiques, il y a un autre aspect important qui est venu influencer les visions africaines d'Adolf Hitler. Les Allemands restaient sur le continent, même après la perte des colonies. Au Cameroun, en Tanzanie ou en Namibie, les communautés allemandes sont encore bien présentes et rêvent d'un retour en arrière. Andreas Eckert.
Là-bas aussi, le Parti national socialiste disposait de structures locales. Leur travail a été rendu quelque peu compliqué au début de la guerre, car beaucoup d'Allemands furent faits prisonniers par les nouvelles puissances coloniales. Mais cela n'a pas empêché la présence, dans les anciennes colonies allemandes, d'un petit groupe d'individus bien décidés à profiter du conflit pour amener ces colonies dans le giron allemand.
À la fin des années 30 et dans les premières années de la guerre, les projets de l'Allemagne nazie concernant l'Afrique se font plus concrets.
La flopée de succès militaires remportés au début de la guerre a encouragé un peu plus la mégalomanie des nazis. Pour beaucoup, le lancement de la conquête de territoires en Afrique n'était qu'une question de temps.
Avec les batailles remportées sur la France et la Belgique, les empires coloniaux de ces deux États semblent à portée de main. Dans un premier temps, l'Office de la politique coloniale du Parti national socialiste pense à la constitution d'une Afrique centrale allemande qui s'étendrait de l'actuel Ghana jusqu'au Cameroun et qui serait idéale pour couvrir les besoins en ressources naturelles du Reich. À plus long terme, il s'agirait de conquérir des territoires plus au sud et jusqu'à l'océan Indien. Seule l'Afrique du Sud échappe à cette boulimie. Les autorités allemandes y voient en effet un allié en matière de séparation des races. Et nous voilà revenus au point de départ, la campagne allemande en Afrique du Nord. En 1941, Hitler décide d'envoyer 45 000 soldats en Libye et en Égypte pour venir en aide aux Italiens, alliés de l'Allemagne nazie. Objectif premier, couper l'accès des Britanniques au pétrole libyen. Mais ce sera peine perdue, l'Afrika Korps se révèle inférieur face aux troupes de Sa Majesté. Et lorsqu'en 1943, le vent commence à tourner en Europe de l'Est, le rêve de l'Afrique centrale allemande se brise complètement. En février, l'Office de la politique coloniale est dissous. Hitler concentre ses forces sur Moscou, mais là aussi sans succès. La perte en février 1943 de Stalingrad marque le début de la fin. Draußen ist Aufruhr, Orient bis Occident, nimmt sich Land um Land, Kontinent um Kontinent. En cette année riche en commémorations, force est de constater que le mot « réconciliation » veut heureusement encore dire quelque chose. Réconcilier, selon le dictionnaire Larousse, c'est rétablir des relations amicales entre des adversaires. C'est par exemple ce qu'ont réussi à faire l'Allemagne et la Pologne, ou encore l'Allemagne et la France, et ce, malgré les lourds conflits qui les ont opposés. Entre la France et l'Algérie, en revanche, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le passé commun. Pour relever ce défi, trois associations basées respectivement à Marseille, Berlin et Oran ont décidé d'organiser une rencontre de jeunes venus de ces trois pays sur le thème du théâtre. Notre correspondante à Berlin, Audrey Parmentier, a assisté en mai à la troisième phase de ce projet qui s'intitule Yadra, et c'était donc dans la capitale allemande.
Des livres dans toutes les langues posés en petit tas et des participantes qui vont de l'un à l'autre en lisant des textes en allemand, en arabe et en français, c'est l'un des groupes qui répète dans une salle du Centre culturel français de Berlin. À chacune de leurs rencontres, les participants travaillent sur de petits projets culturels qui seront ensuite intégrés dans un grand spectacle présenté à Marseille. Malik fait partie de l'association Istijmam d'Oran.
Chez les trois groupes, on croit que la culture peut être plus qu'un catalyseur, peut effacer, on peut communiquer. Mais si on va parler politiquement, on va encore faire une autre guerre des mots. Mais quand on fait un travail artistique et culturel, ça dépasse, il y a de l'émotion, il y a de tout et on se comprend.
Se comprendre entre jeunes venus d'Algérie, de France et d'Allemagne, c'est l'objectif de ce cycle de rencontres intitulé « Se souvenir pour construire l'avenir ». Rafik Mousli est chef de projet au sein de l'association marseillaise Une Terre Culturelle et il rêve d'un office franco-algérien de la jeunesse sur le modèle de l'office franco-allemand de la jeunesse, l'OFAGE, créé il y a 51 ans.
L'OFAGE, on peut l'appeler comme on veut, de créer tout simplement de la rencontre franco-algérienne entre les sociétés civiles, entre les jeunes, permettre aussi à des jeunes algériens et des jeunes français de se rencontrer, de parler de leur histoire, de ce qu'ils ont compris de l'histoire qui a été transmise, aussi d'autres publics, pas seulement à tous les niveaux. Après 50 ans, moi je pense que le moment est arrivé que les gens se rencontrent, qu'on met en place un dialogue interculturel qui permettra possible le traitement de l'histoire, comme a été fait dans le cas franco-allemand.
L'histoire a fait l'objet de nombreuses discussions lors de la première phase du projet à Marseille. Mais pour Charlotte, étudiante en lettres modernes et en philosophie, les vrais échanges ont eu lieu pendant les pauses.
Tout au début, il y avait des questions, des réflexions, des discussions sur un peu sur les trois histoires et sur les trois sociétés. Mais à mon avis, ce qui a été plus important, c'est que après le travail officiel où on nous a lancé à aller parler maintenant sur l'histoire, c'était après, pendant le repas, tout ça, on a beaucoup parlé sur nous, sur nos identités, sur nos cultures. Et là, on vient de découvrir, je pense, le plus les différences. Oui, les différences de pensée, et voilà.
Ces différences, ces préjugés, on les retrouve dans le spectacle concocté par les participants. Markus Ingenlath, le secrétaire général de l'Office franco-allemand de la jeunesse, est venu y assister. D'après lui, il y a des principes essentiels à respecter pour rapprocher deux pays, comme l'ont fait en leur temps Konrad Adenauer et le général de Gaulle.
Ils savaient très bien qu'avec leur propre génération, ça n'est pas possible de surmonter tous les obstacles à la réconciliation. Et même dans la prochaine génération. Donc, ils ont choisi la génération des petits-fils pour vraiment améliorer cette relation franco-allemande. Il faut, deuxièmement, considérer qu'il y avait injustice dans l'histoire. Et après ça, troisièmement, c'est important ensuite de travailler sur la confiance mutuelle.
Elisa travaille au Centre culturel français de Berlin.
Moi, j'ai des tabous dans ma famille, puisque je suis issue d'une famille de pieds noirs. Donc l'Algérie, j'en ai entendu parler toute mon enfance, sans vraiment la connaître. Pour moi, en fait, on a beaucoup de liens avec l'Algérie, mais jusqu'à présent, on n'a pas de possibilité de travailler vraiment avec l'Algérie, d'avoir des échanges et de construire des choses ensemble.
Ensemble, les participants ont donc déjà fait un spectacle, mais pour Mustapha, alias Nigrou, l'objectif est plus ambitieux.
On est là pour construire une autre histoire, un autre souvenir. Et du là, on ira loin.
Et la semaine prochaine, le projet Yadra entrera dans sa phase finale. Ce sera à Marseille, dans le sud de la France, du 12 au 13 septembre. Merci à Audrey Parmentier pour ce reportage réalisé à Berlin. Merci à Philippe Zamner pour les sons de la première partie. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver cette émission en podcast. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tschüss.